prie ensemble. Vu notre Dieu, quelle joie de pouvoir en effet proclamer et chanter qu'un Sauveur nous est né et un Fils nous est donné. Seigneur, nous pouvons chanter ces paroles avec une certaine légèreté. Nous ne mesurons pas ce qu'elles signifient et nous ne mesurons surtout pas, Seigneur, ce que cela implique pour nous ce matin. Et nous voulons te prier, Seigneur, pour que tu nous donnes, pendant ce temps que nous allons vivre maintenant, le secours pour comprendre ces paroles et pour qu'elles soient pour nous ce matin source d'espérance, qu'elles nous remplissent de joie et de paix. Nous voulons, Seigneur, te prier pour les enfants qui ont ce temps dédié, pour qu'eux aussi, Seigneur, comprennent le véritable message de Noël. Merci, Seigneur, parce que dans ta grâce, aujourd'hui, tu veux encore te révéler à nous, tu veux te faire connaître à chacun de nous, parce que tu as plein de bénédictions en réserve pour nous et parce que tu nous aimes. Alors, Seigneur, nous te louons pour cela, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'on pense à Noël, on pense souvent aux ambiances ou à l'ambiance qu'il y a autour de Noël, les décors, finalement l'ambiance que véhiculent les films ou les téléfilms que nous regardons bien souvent. Vous savez, la neige, le sapin, les belles lumières, la cheminée, les petits cookies, les petits gâteaux ici ou là. Voilà ce que souvent véhicule finalement ce qu'on appelle l'ambiance de Noël. Et lorsqu'on considère même tous les décors autour de Noël, ne serait-ce que le Père Noël, avec son gros manteau bien chaud, les rennes, le Père Noël qui vient finalement du grand froid, et tous ces décors autour de Noël nous renvoient finalement au pays du Nord, puisque ces traditions viennent en général de ces pays, que sont l'Allemagne, la France, peut-être l'Angleterre. Si bien que lorsqu'on était enfant, j'ai grandi dans les îles, pour fêter Noël, alors en plus, à cette époque-là, à Madagascar, où j'ai grandi, on n'avait pas encore les sapins synthétiques. Mais il fallait un sapin. Et donc, on est allé dans les bois, puis chercher des arbustes, etc., qui ressemblaient un peu au sapin et qu'il fallait découper. Sinon, ben ça ne faisait pas Noël, quoi. Si on y réfléchit bien, encore une fois, tout ça, finalement, véhicule l'idée d'un Noël qui serait une fête des pays du Nord. Et c'est peut-être avec cet esprit-là que nous comprenons, nous concevons Noël. Alors oui, certes, beaucoup de traditions autour de Noël viennent des pays européens. Mes chers amis, le message de Noël que nous célébrons ce matin est un message universel. C'est une bonne nouvelle pour tous les peuples. Et le premier chant que nous avons entonné ce matin était « Joie pour le monde ». Et c'est cela le message de Noël. Et c'est ce que nous allons voir ensemble en lisant juste quelques lignes de la lettre de l'apôtre Paul, donc, qui a écrit cette lettre après la venue de Jésus-Christ, après la résurrection de Jésus-Christ, qui a écrit cette lettre donc, à l'église de Rome, aux chrétiens de Rome. Et nous lisons donc Romains chapitre 15 et les versets 8 à 13. Romains chapitre 15, versets 8 à 13. Et je fais la lecture. J'affirme en effet que Jésus-Christ est devenu le serviteur des circoncis pour prouver que Dieu est vrai en confirmant les promesses faites à leurs ancêtres. Quant aux non-juifs, ils célèbrent Dieu à cause de sa bonté, comme le dit l'Écriture. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. » Il est dit encore « Nation, réjouissez-vous avec son peuple. » Et encore « Louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. » Ésaïe dit aussi « Il paraîtra le rejeton d'Isaïe. Il se lèvera pour régner sur les nations espéreront en lui. » Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je l'ai dit, ce texte est extrait de la lettre de Paul, donc de l'apôtre Paul, ou encore pour certains, Saint Paul, adressé aux chrétiens de l'église de Rome. Et dans cette église de Rome, il y avait, donc c'était la première église de Rome, nous dirons, il y avait des chrétiens d'arrière-plan juif, et des chrétiens d'arrière-plan qu'on dirait, on appellerait païens ou simplement grecs. Donc deux cultures très différentes, voire deux cultures opposées et qui se rassemblaient pour célébrer le même Dieu. Pourtant, malgré cette foi commune, il y avait dans cette église des tensions liées justement à ces différences de culture, à ces différences d'arrière-plan. On peut bien imaginer, aujourd'hui, prenez deux cultures diamétralement opposées ou presque ennemies qui se rassemblent pour louer Dieu. Et donc, il y avait cette tension. Et pour les encourager à l'unité, l'apôtre Paul va démontrer que tous, aussi bien les juifs que les non-juifs, sont coupables, autant coupables devant Dieu. Même les juifs qui avaient la loi depuis Moïse et les païens qui n'avaient pas cette loi-là étaient tous coupables devant Dieu. Ils avaient tous ignoré Dieu. Ils avaient tous méprisé Dieu. Et donc tous coupables, mais tous au bénéfice de la même grâce. Ils sont tous justifiés par la foi seule en Jésus-Christ. Voilà ce que Paul démontre dans cette lettre, pour finalement mettre ces juifs et ces non-juifs sur le même pied d'égalité. Ils sont au bénéfice de la même grâce, des mêmes bénédictions. Et voilà pourquoi Paul les encourage, en sachant cela, à s'accueillir mutuellement et à se mettre au service les uns des autres. Et c'est ainsi qu'on arrive à ce passage de ce matin où Paul montre que Jésus est le serviteur non seulement des Juifs, le peuple au milieu duquel il a vécu, mais aussi de tous les peuples. Alors vous avez certainement remarqué, nous vivons dans une société où on n'a jamais autant parlé de racisme, d'inclusion. On sent que ce n'est pas juste d'exclure les autres. On sent que nous aspirons tous finalement à une forme d'unité. Nous aspirons tous à une paix. Nous aspirons tous à un amour. Mais nous constatons aussi malheureusement que ça semble difficile, difficilement faisable. Nous sommes dans un monde, finalement, où nulle part la paix ne semble être assurée. Après les guerres, on a monté les institutions comme l'ONU en espérant que cela, enfin, il y aura les amitiés entre les peuples, une amitié entre les peuples. Mais on voit qu'aujourd'hui, l'ONU est de moins en moins écoutée. En Europe, l'Union européenne, bien sûr, au-delà des facilités économiques, était là aussi pour maintenir la paix. Mais on voit que les bruits de bottes sont bien proches de nous. Tout ce que les hommes essaient de mettre en place avec bonne volonté pour apporter une paix durable, une véritable espérance, on sent que ça n'aboutit pas. Personne n'y croit réellement. Mais on n'a pas d'autre choix que d'y travailler. Voilà pourquoi, chers amis, notre société et chacun de nous ce matin, nous avons besoin d'entendre le message de Noël. qui est un message source de joie, de paix et d'espérance pour tous les peuples. Et c'est ce que nous allons voir simplement rapidement, en constatant d'abord, comme le dit le texte, que Jésus est venu chez les siens en tant que serviteur. J'affirme en effet, si on peut mettre juste le texte s'il vous plaît, on peut laisser le texte. J'affirme en effet que Jésus-Christ est devenu le serviteur des circoncis pour prouver que Dieu est vrai en confirmant les promesses faites à leurs ancêtres. Jésus n'est pas venu en tant que roi autoritaire, bien que certains de ses disciples le souhaitaient. Beaucoup de gens étaient déçus de Jésus parce qu'ils espéraient que Jésus allait renverser le pouvoir romain en place, qui exploitait le peuple. Beaucoup voulaient que Jésus établisse un nouveau royaume juif, mais ce n'était pas la mission de Jésus. Jésus a quitté la gloire de son ciel. Jésus a quitté tout ce qui lui appartenait pour s'humilier comme un serviteur. Il est venu naître dans une étable et mourir comme un criminel sur une croix. Je ne sais pas si on imagine plus grande humilité, les amis, que de naître dans une étable, lui, le roi promis, et de mourir comme un criminel, par la pire des morts, sur une croix. Il a renoncé à ses droits, il a renoncé à sa vie, par amour pour le monde, pour accomplir le plan de salut de Dieu pour l'humanité. Il est venu afin que le monde puisse connaître Dieu et le glorifier pour sa compassion et sa miséricorde. La Bible enseigne en effet que Dieu, dans sa grâce, nous offre la vie éternelle, alors que nous méritons tous la mort à cause de nos fautes et de nos péchés. Et Dieu peut offrir cette vie éternelle parce qu'il a donné son Fils, Jésus, pour qu'il prenne nos fautes et nos péchés à notre place et qu'il subisse la condamnation sur la croix. Voilà pourquoi Noël est une bonne nouvelle. Noël est une bonne nouvelle parce qu'au bout, il y a la croix. S'il n'y avait pas la croix au bout, alors on ne serait pas là en train de célébrer Noël. Parce qu'il y a au bout, il y a la croix, synonyme de pardon de nos péchés, un pardon assuré. La mission de Jésus était donc de venir nous sauver, vous et moi, pour la gloire de Dieu. Mais pour cela, il est venu d'abord vers son peuple, son propre peuple. Jésus est d'abord venu pour servir le peuple juif. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici, lorsqu'il appelle, qu'il qualifie de circoncis dans ce passage. Et Paul rappelle que la venue de Jésus, sa mission, confirme les promesses que Dieu avait faites à ce peuple longtemps auparavant par la bouche et les écrits des prophètes. Et nous avons lu notamment une partie de ces prophéties juste au début de ce culte par le prophète Ésaïe. Donc la venue de Jésus confirme ses promesses. Sa venue confirme que Dieu dit toujours la vérité, que Dieu accomplit toujours ses promesses. Voilà pourquoi c'est une bonne nouvelle aussi. Comment croire en un Dieu qui ne tiendrait pas parole? Comment croire en un Dieu qui n'est pas capable d'accomplir ce qu'il dit? Et Noël est la preuve que ce que dit Dieu est vrai et qu'il est capable d'accomplir ses promesses. Parce que tout au long de l'histoire du peuple juif, Dieu a donné des promesses qui concerne ce sauveur qui vient. Dieu avait promis aux ancêtres juifs qu'il enverrait un Messie de la lignée du roi David, qui était le grand roi d'Israël. Malheureusement, une grande partie du peuple juif, et notamment les chefs de ce peuple, n'ont pas cru en lui. Beaucoup d'entre eux l'ont rejeté, allant même jusqu'à vouloir le tuer. Je dis bien la plupart, mais n'oublions pas, en disant cela, que les premiers chrétiens, les premiers disciples, la première église était composé de juifs. Toujours est-il que la nation, dans son ensemble, a rejeté Jésus. Jésus qui est venu pour eux, pour les sauver. Et cela est souligné notamment dans le récit de la Nativité. Lorsqu'on voit que le Sauveur du monde, le Roi des rois, n'a pas de place dans la salle réservée aux hôtes. Il doit aller dans l'étable. Et rien que ce récit annonce quelque part le rejet que Jésus éprouvera de la part du peuple. En accomplissant les promesses de salut, donc, de Dieu envers les Juifs, Dieu a démontré sa véracité et sa fidélité. Mes chers amis, la portée de son œuvre à la croix ne se limite pas à ce peuple juif, et c'est notre deuxième point. Jésus s'est donné pour tous les peuples, et c'est ce que nous voyons dans les versets 9 et suivants. Pour accomplir donc le plan de salut, Jésus est venu au milieu des siens. Il s'est fait homme en naissant dans le peuple, au milieu du peuple d'Israël. Pourtant, bien avant cela, lorsque Dieu veut se révéler, a voulu se révéler aux hommes, Dieu a commencé par se révéler à un peuple qu'il s'est constitué pour lui, le peuple hébreu. Et en se révélant à ce peuple, Dieu n'a pas fait de favoritisme. Parce que c'est parfois l'impression qu'on a lorsqu'on lit les récits bibliques. On se dit, comment se fait-il que Dieu ait choisi un peuple ? En fait, il l'a fait parce qu'il devait se révéler aux hommes. Il l'a fait parce que ce peuple devait recevoir sa révélation. Mais en faisant cela, Dieu n'a pas fait de favoritisme. Comment le sait-on ? Parce que lorsque Dieu a choisi le patriarche de ce peuple, Abraham, voici ce que nous lisons dans le premier livre de la Genèse, voici ce que Dieu dit à Abraham. « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. » Donc, dès le départ, en choisissant le peuple, Dieu avait en vue la bénédiction de toutes les nations. Comment ? Par la descendance d'Abraham. Il n'est pas dit par les descendants d'Abraham, mais par la descendance d'Abraham. Et cette descendance, la Bible nous l'enseigne, c'est Jésus-Christ. Et c'est ce que nous lisons aussi dans le récit de la Nativité. Parmi les premiers hommes à venir adorer Jésus, à la suite des bergers, nous trouvons les mages qui viennent d'où ? Qui viennent de l'Orient, qui ne sont donc pas juifs. Les premiers hommes à adorer Dieu, c'était des personnes qui venaient d'autres nations. Donc, dès le récit de la Nativité, nous comprenons que Jésus est le sauveur des nations, l'accomplissement des promesses de Dieu en faveur des nations. Et le but de ce salut, c'est que tous les peuples rendent gloire à Dieu et qu'ils le louent. Et pour souligner cela, dans les versets 9 à 11 de notre passage, l'apôtre Paul va donner quatre citations tirées de l'Ancien Testament. Dans la première partie de nos Bibles, l'Ancien Testament correspond à la Bible hébraïque. Donc, Paul, finalement, cite ici des textes que le peuple juif connaissait. Et en lisant ces citations, on pourrait avoir l'impression que Paul se répète quelque peu. Pourquoi est-ce qu'il a choisi ces citations qui, finalement, semblent se répéter ? Il aurait pu en choisir une, ça aurait suffi. Alors pourquoi trois, allons-nous dire, puisque la quatrième est particulière. Mais pourquoi ces quatre citations ? La première remarque qu'on peut faire par rapport à ces citations, c'est que Paul cite ici toutes les parties de la Bible. L'Ancien Testament, il y a quatre divisions, enfin quatre parties. Il y a ce qu'on appelle la Pentateuch, donc la Torah, la loi. Il y a ce qu'on appelle les écrits, donc les histoires. Il y a ce qu'on appelle le livre de sagesse. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les prophètes. Et que trouve-t-on dans ces quatre citations ? On trouve quatre citations tirées de ces quatre parties de l'Ancien Testament. Donc Paul démontre par là que toute la Bible, tout l'Ancien Testament, annonçait la même chose. Prévoyait déjà que Jésus allait venir pour les nations. Mais il y a une deuxième remarque qu'on peut faire concernant ces citations. Dans la manière dont Paul les cite ici, nous voyons une progression dans ces citations. Regardez bien. Dans la première citation, le verset 9, il est dit que le peuple de Dieu loue son nom parmi les nations. Donc, le peuple de Dieu loue son nom devant les nations. Dans la deuxième citation, verset 10, les nations sont invitées à louer Dieu avec son peuple. Donc, on a ici une étape supplémentaire. Les peuples sont invités à louer Dieu avec, enfin, les nations sont invitées à louer Dieu avec son peuple. Et cela aboutit à la troisième citation du verset 11, où cette fois, toutes les nations loueront le Seigneur. Je trouve ça extraordinaire la manière dont Paul choisit ces citations. Il montre finalement l'histoire du salut. Au départ, c'est le peuple qui loue Dieu. Ensuite, le peuple loue Dieu devant les nations et invite les nations à louer Dieu. Et à la fin, toutes les nations louent Dieu avec le peuple. Qu'est-ce que ça nous montre, les amis? Ça nous montre que le Dieu de l'univers est en quelque sorte un Dieu missionnaire. Ce Dieu veut attirer toutes les nations à lui. Ce Dieu est venu chercher les hommes et les femmes qu'il avait rejetés, qu'il avait ignorés. Il les aime tellement qu'il a mis tout en œuvre pour qu'ils le connaissent, pour qu'ils l'adorent, pour qu'ils mettent leur confiance en lui. Et tout cela s'est accompli, selon le verset 12, par le rejeton d'Isaïe, Isaïe étant le père du roi David. Il est donc question ici du roi descendant de la lignée de David, à savoir Jésus-Christ. Chers amis, ça nous montre que la mission d'amener les nations dans la famille de Dieu n'a pas été inventée par les premiers chrétiens, n'a pas été inventée par les Européens. Ce n'est pas Paul ou ses autres disciples qui sont à l'origine de cette mission. Ces passages nous disent que c'est Dieu qui est à l'origine de cette mission. Dieu veut racheter l'humanité du péché. Il veut qu'on connaisse son Fils Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et encore une fois, notre rassemblement de ce matin, en tant qu'Église formée de différentes nations qui ensemble louent Dieu, montre que le plan de Dieu s'est accompli. On ne réalise pas finalement le privilège que nous avons ce matin d'être ensemble, de venir de différentes nations. Et nous allons voir cet après-midi les spécificités de certaines nations représentées ici. Mais de voir tout ce monde rassemblé. Finalement, nous faisons ce matin ce que le monde rêve de faire, mais ce que le monde n'arrive pas à faire. Et cela a été rendu possible en Jésus-Christ. Et voilà pourquoi, troisième partie et dernière partie, Jésus est l'espérance de tous les peuples. Verset 12, la fin du verset 12 et le verset 13. Il se lèvera pour régner sur les nations et les nations espéreront en lui. Jésus est la véritable espérance de toutes les nations. Voilà pourquoi, encore une fois, Noël est une bonne nouvelle. Ce Jésus qui est né dans une étable et qui est mort sur la croix n'est pas resté dans le tombeau, les amis. Il est ressuscité et il règne. Et le règne de Jésus-Christ est une bonne nouvelle. Si vous êtes sous l'oppression d'un roi injuste, si vous êtes sous l'oppression d'un roi tyrannique, apprendre qu'un nouveau roi juste et aimant est monté sur le trône, c'est une bonne nouvelle. Et on écoute cette bonne nouvelle un peu. Ah ouais, c'est pas mal. Mes chers amis, il n'y a pas d'autre espérance. Le fait que Jésus règne et que ce Jésus, nous l'avons lu au début de ce culte, est déterminé à éradiquer l'injustice. Et on l'a vu aussi, ce qu'il a dit, il l'accomplit. Alors, nous pouvons placer notre espérance en lui. Il est digne de notre confiance. Même si aujourd'hui, nous ne voyons pas les effets de ce règne. Un jour, toute langue, tout œil le verra. et toute langue reconnaîtra qu'il est Seigneur. Et nous pouvons louer Dieu de pouvoir le reconnaître ce matin déjà. Où est ton espérance ? Dans quoi places-tu finalement ton espoir pour ce monde, pour cette société ? Il y a quelque temps, en début de semaine, s'est achevée la COP 28. Vous savez, cette conférence mondiale pour réfléchir aux solutions concernant le changement climatique. Alors, il y a eu apparemment un accord. Je n'ai pas lu en détail l'accord. Je le reconnais. Il y a eu un accord suite à cette conférence. Et on place à nouveau, comme on l'a fait auparavant, beaucoup d'espoir dans cet accord. Mais on sait, au fond, que malheureusement, ça ralentira peut-être un peu les choses. Mais ça n'apportera pas un salut aux hommes. Où est notre salut ? Où est notre espérance ? Le monde espère pouvoir régler, ou du moins ralentir, les problèmes. Il espère plus de paix, plus de prospérité. Mais tout le monde sait que ses espoirs sont incertains. Mais comme on n'a pas le choix, on est obligé d'y croire. Mais ici, les amis, il ne s'agit pas de ce genre d'espoir que nous avons lorsque nous disons et nous espérons que quelqu'un passera demain, ou lorsque nous espérons que quelqu'un guérira de sa maladie. L'espérance chrétienne est fondée sur la véracité de Dieu qui ne ment jamais, sur les promesses que Dieu a faites et qui se réalisent toujours, et sur l'œuvre de Jésus-Christ qui est mort pour nous et qui règne aujourd'hui. Voilà sur quoi nous fondons notre espérance, sur des choses qui sont certaines et dont on a vu la démonstration. Dieu ne parle pas juste pour parler, il agit, il a montré. Voilà pourquoi il est digne de notre foi et de notre espérance, les amis. Et Paul conclut ce passage par une sorte de prière à Dieu qui est source de toute notre espérance. Et c'est la prière que nous voulons nous adresser à chacun de nous ce matin. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. N'est-ce pas le vœu que nous voulons souhaiter finalement à nos familles ? Pendant ces périodes, beaucoup iront dans leur famille. Et on a remarqué que beaucoup de Français n'aiment pas Noël, notamment parce que ça les renvoie les problèmes parfois de leur famille. Et nous voulons, je l'espère, pour nos familles, pour nos contemporains, pour notre pays, pour notre monde, la joie et la paix. Et ce texte nous montre que cette joie et cette paix se trouvent en Jésus-Christ. Par la foi, par la puissance de l'Esprit, sous le règne de Jésus. C'est lorsque nous nous soumettons au règne de Jésus que nous sommes assurés cette joie et cette paix. Au chapitre précédent, chapitre 14, l'apôtre Paul a dit en effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Voilà ce qu'apporte le royaume de Dieu. Voilà ce qu'apporte le règne de Jésus. La justice, la paix et la joie. Alors, chers amis, qu'en cette période de Noël, nous puissions aspirer chacun de nous à cette justice réelle qui recouvrira toute la terre, que nous puissions saisir cette bénédiction de joie et de paix qui sont disponibles pour nous dès maintenant en Jésus-Christ, par la foi, et cela sans nier la difficulté des circonstances, sans nier la réalité de la vie et de ses souffrances. Jésus nous promet la joie et la paix. Voilà pourquoi Jésus est l'espoir des nations. Et je vous invite à vous incliner dans la prière pour répondre à ce message. Et après quoi, nous chanterons un chant. Mais notre Dieu, nous te louons parce que tu es plein de grâce, de compassion et d'amour. Merci Seigneur parce que tu n'as pas laissé le monde courir à sa propre perte, guidé par des intérêts égoïstes, marqué par l'injustice. Seigneur, tu, dans ta grâce, tu as tout mis en œuvre pour racheter ce monde, pour le sauver. Merci d'avoir envoyé Jésus-Christ, lumière des nations, qui s'est humilié jusqu'à la croix, qui sur cette croix a pris nos fautes et qui nous accorde par sa mort et sa résurrection un pardon complet et la réconciliation avec notre Créateur. Et nous voulons te prier, Seigneur, pour que ce message nous remplisse de joie et de paix ce matin. Et nous voulons te prier, Seigneur, pour qu'aucun ici ne se prive de ce beau cadeau. Il n'y a pas de plus grand cadeau, Seigneur, que celui du Fils qui s'est donné pour nous. Seigneur, qu'en cette période de Noël, plutôt que de simplement nous réjouir de bien manger et de bien boire, nous puissions nous réjouir de cette espérance réelle, vivante, que nous avons en Jésus-Christ. Amen.
reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il est.